Merci Isabelle Souquet et bonsoir à tous. Ce soir, on est sur la route tout à la fois de la canicule, cette circonstance, du gel et du vent. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Frayeur à Buxeuil. C'est vers 16h dimanche qu'Alain a entendu un bruit insolite. Le temps qu'il arrive à sa fenêtre, sa cabane de jardin s'était envolée. T'entends ça, Yvon ? Et il a vu des arbres décapités sous la force du souffle dans le bois tout proche. Ça faisait vraiment un bruit très sourd, dit-il. La cabane a voltigé, les branches d'arbres ont été éparpillées autour des troncs décapités. Autant de signes qu'il s'est bien agi d'une tornade.
Waouh !
Et tu sais où c'est, Yvon ? Buxeuil ? Ça s'est passé à Buxeuil, ça. Tu sais où c'est, Buxeuil ? C'est pas en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est pas à La Réunion, c'est pas aux Antilles. Buxeuil, c'est dans l'Indre, Châteauroux, en plein centre de la France. Oui, mais finalement, le dérèglement climatique, ça a du bon. Bientôt des cocotiers et des palmiers à Châteauroux. Ça nous rapproche les tropiques. L'exotisme en bas de chez soi. Plus besoin de prendre l'avion.
Parlons maintenant des vents et de tous les souffles. Nous proposerons d'abord nos propres doutes. Car pour cette matière, pas plus que toutes les autres, nous n'avons rien trouvé dans ce qui a été dit avant nous, que ne pourrait dire tout aussi bien le vulgaire et le premier venu. Ainsi parlait Aristote au IVe siècle avant notre ère dans son traité météorologique, puisque le temps qu'il fait semble être une préoccupation humaine depuis l'origine. Mais si la science a fait plus d'une révolution depuis, il y a des phénomènes que l'on continue d'ignorer. Ainsi, pourquoi cette tornade s'est-elle formée le 30 avril dernier à Buxeuil ? Pourquoi se déclare ici et là ce qu'on appelle des coups de poing de vent, très localisés et dévastateurs ? Pourquoi n'a-t-il pas neigé à Noël ? Pourquoi le gel a-t-il sévi un peu partout en ce printemps, touchant au premier chef les viticulteurs qui misaient pourtant sur la récolte 2017 pour se refaire une centrée après les déboires météo de 2016. La météorologie n'est pas la climatologie, mais elle peut donner quelques réponses de court et moyen terme, d'autant que les moyens techniques ont un peu changé depuis Aristote, qui s'appuyait lui sur l'astronomie, la mythologie et le vol des oiseaux pour tirer ses conclusions. Bonsoir Olivier Renard.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Météo Centre, qui n'est pas une antenne locale de Météo France, précisons-le tout de suite.
Oui, donc on est une association loi 1901 depuis janvier 2011, et nous on travaille indépendamment sur les 6 départements de la région Centre-Val de Loire, auxquels on a rajouté l'Allier, la Nièvre et l'Yonne, ce qui nous permet de suivre de façon un peu plus longue le cours de la Loire.
Olivier Renard, il fait chaud, non ?
Ah, aujourd'hui.
C'est la première question que tout le monde se pose aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui il fait chaud et
ça
sera vraiment pire ce week-end, avec des températures qui dépasseront largement les 30 degrés.
Demain, notamment.
Et largement demain, oui.
L'épisode de gel paraît loin, en fait, c'était il y a presque un mois. Enfin, oui, c'était il y a un mois
c'est
tout
ça.
Juste.
Voilà, on était fin avril et c'est vrai qu'il y a eu des gelées tardives. Hein. On parle de gelées tardives quand on dépasse la date du 15 avril. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel, mais c'est toujours très embêtant, notamment pour le monde agricole, les viticulteurs, etc., etc.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos relevés météo de cet épisode de gel qui a frappé les viticulteurs et agriculteurs, alors de toute la France,
oui,
ou presque, et qui n'ont pas été épargnés dans la région? Est-ce que vous savez un peu quels vignobles, notamment, ont été particulièrement touchés?
Alors, en vignoble particulièrement touché, il y a le vignoble du Val-de-Loire, le vignoble du Bordelais, où finalement les prévisions étaient un peu trop optimistes au niveau des températures. Et ils ont mis en place tardivement seulement, et pour certains même pas du tout mis en place, de mesures de protection. Et c'est vrai que du coup, le Bordelais a vraiment souffert.
Et ici, dans la région, quasiment tous les vignobles ont été touchés.
Alors, sauf ceux véritablement qui ont pu mettre en place des mesures de protection. Je pense aux certains vignobles de Touraine, hein, qui ont fait déplacer des hélicoptères pour brasser l'air, notamment. Dans le Chablaisien aussi, où ils ont allumé pas mal de chaufferettes pour essayer de lutter contre les effets du gel. Après, en Bourgogne, j'ai un petit peu moins d'informations, mais il y a de fortes chances qu'eux aussi aient été impactés.
C'était pas très attendu. On avait eu un très beau printemps en mars, tout le monde déjeunait dehors déjà.
Ah, il y a les fameux seins de glace. Alors malheureusement, forcément, pour le jardinier, les seins de glace, bon, on attend pour planter. Pour les agriculteurs, c'est totalement impossible d'attendre ces dates du 11, 12 et 13 mai. Donc la végétation avait un petit peu d'avance, parce qu'il avait fait frais véritablement en janvier. Tout le monde avait eu un semblant d'hiver, on va dire. Et après, les températures ont augmenté et la végétation s'est développée et a pris de l'avance sur le planning habituel.
Elle avait de l'avance, cette végétation. Les premiers bourgeons étaient apparus dans les vignobles, bien vite réduits à néant par un coup de gel annoncé, mais inévitable.
Là, on est dans des vignes qui ont été partiellement épargnées, on va dire. Où on a travaillé les sols hier, on voit, c'était décavaillonné hier.
Décavaillonné et...
Mais c'est-à-dire qu'on enlève la terre au milieu du rang pour enlever les mauvaises herbes.
Donc là, de tout jeune pousse, je ne sais pas si on
oui,
se dit ça,
ouais,
comme ça,
toute jeune vigne, ouais, c'est des vignes
qui ont tenu le coup.
3 ans. Ouais, qui ont 3 ans. Elles ont pris un petit peu de gel, mais ouais, elles ont tenu le coup globalement parce que ben, des jeunes vignes, elles sont un petit peu plus résistantes, un peu plus de force, un peu plus de vigueur. Finalement, aujourd'hui, on bichonne ce qui reste à bichonner pour l'instant.
Où est-ce que ça a été touché? C'est plus derrière nous?
Alors là, on est sur un secteur, en fait, quand on regarde bien, on est sur un secteur, on est au sud d'Orléans, hein, sur la rive gauche de la Loire. Et on est entre la Loire et la Sologne. Donc tout ce qui est par ici, là, on est sur un petit coteau qui est un géocalcaire avec un coin qui est a priori un peu plus à l'abri, donc qui a été moins touché cette année. Et de l'autre côté, sur le plateau, ben, y a des parcelles qui sont quasiment gelées à 95%, pour pas dire 100%.
Et là, vous n'aviez pas très envie d'y aller, de nous y emmener ce matin?
Non, 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 parce qu'il y a des parcelles où on n'a pas envie d'y aller, parce que moralement, c'est très dur. Mais il y a des parcelles, effectivement, là, on voit de la végétation, on voit que c'est joli, on voit qu'il fait beau, on voit que ça pousse. Mais il y a des parcelles où c'est presque, je ne veux pas dire que c'est comme en hiver, mais c'est encore, il n'y a pas de végétation, de repartir encore. Où ça fait que de commencer à repartir et on est début juin la semaine prochaine. Donc, quand on voit ces vignes-là, dans nos métiers, pour nous, pour le moral, c'est pas bon. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas forcément envie d'y aller.
Est-ce que néanmoins, on peut voir à quoi ça ressemble, un pied de vigne qui a été touché par le gel?
Oui, on peut voir un petit peu. Il suffit de prendre le premier pied. Alors là, c'est une jeune vigne de Chardonnay. Donc là, par exemple, vous voyez, donc là, il y a cet œil-là qui n'a pas gelé. Là, ça n'a pas gelé, il y a un brin, on voit des grappes. Là, par exemple, ça a gelé. Voilà. Là, on voit que ça a gelé, ça a séché. Hein. Donc là, on voit un petit bout de feuille qui repart. Bon, mais ça, il n'y aura pas de raisin dessus, c'est sûr. Hein. Là, ça a gelé aussi. On voit c'était sec. Hein. On voit bien, hein, ça a séché depuis. On voit vraiment les bourgeons qui étaient. Voilà, on l'entend. Hein, c'est complètement cramé. Bon, là, il repousse quelque chose, mais il n'y aura pas de raisin dessus. Et là, ce bourgeon-là, pas gelé. Vous voyez, on est dans un secteur où ça a moins gelé, mais on va dire que sur ce pied-là, alors c'est pas tous les pieds, mais sur ce pied-là, on va dire que c'est gelé à 50% sur ce pied-là.
Alors vous, Hubert Piel, vous êtes viticulteur au Clos Saint-Fiacre, sur la commune de Marot-au-Pré. Vous avez 19 hectares répartis sur plusieurs communes.
Oui.
Vous faites des vins d'Orléans, vins d'Orléans-Cléry.
Voilà.
Et c'est le 21 avril que vous êtes rendu compte qu'une partie de vos parcelles avait gelé.
En fait, la météo annonçait du gel le 20 et 21 avril. Donc la température la plus basse était annoncée le jeudi matin. Donc on fait un petit peu d'antigel avec ce qu'on appelle des bougies. Hein.
C'est-à-dire vous mettez des bougies devant vos
pépines? C'est des pannes paraffines en fait qu'on allume. On en met à peu près 400 à l'hectare et ça permet de réchauffer l'atmosphère et d'empêcher le gel. Bon, le phénomène du gel, c'est non seulement les températures basses, mais c'est aussi le lever du soleil qui vient griller le bourgeon le matin. Quand on gratte le pare-brise, comme disent les gens souvent, ben on a gratté le pare-brise ce matin, on a pensé à vous. Ah ben c'est gentil d'avoir pensé à nous. Mais quand on gratte le pare-brise et que derrière il y a un grand soleil, tout le monde part et se dit « Oh ben il fait beau, il a gelé ce matin, mais il fait beau ». Mais il faut savoir que quand c'est au mois d'avril, dans les vignes, ça fait beaucoup de dégâts. Donc on était parti pour avoir une grosse nuit de gel la nuit du 19 au 20 avril. Donc il y a déjà eu des dégâts cette nuit-là, mais finalement, la seconde nuit a été vraiment fatidique chez nous parce que ben, finalement, il a fait plus froid que prévu. Et dès qu'il y a plus d'humidité, ben automatiquement, la vigne est plus sensible. Parce que plus c'est humide et plus ça gèle sur des températures pas très basses. En fait, à moins 1, moins 2, ça gèle. Alors quand c'est pas du tout humide, on peut avoir jusqu'à moins 2, ça peut tenir. On va dire moins 2, des fois moins 3, on a vu que ça tenait. Mais dès que c'est humide, à moins 1, moins 2, hop, voilà. Et la deuxième nuit, il y avait beaucoup d'humidité. Et malheureusement, c'est vrai que c'est les périodes où on est en alerte et on dort pas beaucoup. Du coup, quand on s'est levé, moi, à 3h du matin, dans la nuit du 20 au 21, il y avait déjà des pare-brises de voitures qui étaient gelées. Et le matin, c'était blanc de chez blanc partout. Donc là, c'était vraiment...
Et sur les 19 hectares, combien ont souffert ?
Alors sur les 19 hectares, je dirais qu'il y en a eu 19 de touchés. On va dire que nous, sur les 19 hectares, il y a un tiers qui est moins touché. Et il y a les deux tiers qui sont quand même touchés. Ça va jusqu'à 95%. Et des parcelles, on récoltera rien du tout, c'est sûr.
Les parcelles sur lesquelles vous aviez posé des bougies, est-ce qu'elles ont été protégées ?
Il y a celle-là, justement. Donc là où on voit que la bougie n'a pas fait son rôle à 100%, mais parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de solution miracle. La meilleure solution pour avoir de la récolte, c'est que ça ne gèle pas. Ça, c'est tout basique. Mais voilà, après, tous les systèmes de protection ont tous une efficacité, mais ont tous des limites à un moment ou à un autre.
Ça ressemble à quoi les nuits où vous savez qu'il va geler, où vous avez vu à la météo ou dans vos prévisions à vous que les températures allaient vraiment descendre?
Ça ressemble à... On s'appelle tous entre copains. Alors c'est parce qu'on a pas mal de collègues vignerons un peu dans toutes les régions, donc on s'appelle avant, tiens, qu'est-ce qu'ils annoncent chez toi? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Chez nous, c'est ça. On remémorise beaucoup les années qui sont passées en amont, parce que malheureusement, c'est pas une bonne expérience, mais on a déjà vécu des années de gel, les générations d'avant aussi. On suit un peu les météos sur tous les sites internet qu'on peut trouver. Je veux dire, moi je suis la météo sur 3 ou 4 sites différents. Et puis voilà, on se dit, on espère que ça ne prenne pas, mais c'est là qu'on se rend vite compte que la nature est bien plus forte que nous, évidemment, ça c'est pas nouveau. Et puis on se couche le soir, mais on ne dort pas, et on est en alerte systématique, parce que comme nous, on fait un peu d'antigel, il faut suivre les températures de manière à intervenir, pouvoir allumer. C'est surtout les nuits après le gel qui sont dures, parce que c'est le plus dur, c'est de constater les dégâts. On est vraiment... Il y a cette notion d'impuissance, C'est surtout de voir les dégâts, parce qu'il ne faut pas oublier que la vigne, c'est un travail à l'année. Et c'est une année de travail qui est mise en l'air. Donc c'est ça qui est dur à avaler, on va dire. Et surtout quand ça s'accumule. Je veux dire, il y avait déjà eu des coups de gel l'année dernière, il y a eu des coups de gel en 2012.
Et ça, vous pensez vraiment que les épisodes de gel se multiplient et se rapprochent? Est-ce que vous-même, vous êtes issu d'une famille de viticulteurs qui peuvent témoigner de ce que ces épisodes de gel étaient plus rares avant?
Ah oui, alors ça, nous, on est, alors le domaine est du côté de mon épouse, on est la 4e génération. Donc les grands gels historiques qu'on a eus, c'est 1956, un gel d'hiver, et après c'est 1991. Voilà, donc 56-91, les anciens se disaient, c'est arrivé. Sauf qu'après 91, il y a eu 94. Et puis est arrivé quand même, petit gel 2007, mais surtout il est arrivé un autre gros gel, c'est 2012. Donc là où on a eu du gel d'hiver, des gels de printemps. Et là, on se dit que ça commence à venir pas mal, après un petit peu en 2013, et puis surtout l'année dernière, 2016. Et on se dit qu'il ne faut pas que ça recommence en 2017. Là, vous êtes là aujourd'hui, on parle du gel de 2017. Voilà. Et donc, on s'aperçoit bien que réchauffement climatique, je ne sais pas, les moyennes annuelles augmentent, c'est sûr. Les pluviométries peuvent peut-être diminuer, mais où elles tombent à différents moments. Mais ce qui est sûr, c'est une modification du climat.
Vous sauriez quantifier les conséquences sur votre récolte ?
Oui. Alors les pertes aujourd'hui, les pertes qu'il y a chez nous, on va dire, cette année, on va dire, c'est 70-75% de pertes, on va dire.
Est-ce que vous êtes assuré sur vos 19 hectares ?
Alors non, on n'est pas assuré. On a été assuré, on ne l'est plus pour les raisons évidentes. Qui sont le coût. Mais aujourd'hui on n'est pas assuré. Cette année, on n'était pas assuré.
Est-ce que vous avez touché ou allez toucher des subventions, des aides, notamment de la part du Conseil régional?
Alors il y a quelque chose qui est mis en place, effectivement, pour l'antigel, donc pour la protection antigel. Donc au niveau de la région, il y a des aides à la hauteur de 35%. Donc ils ne sont pas négligeables. Bon, maintenant, il faut payer le restant, les 65% restants, sachant que c'est vrai que l'aspersion ou l'antigel avec des éoliennes, c'est des modes d'antigel qui sont intéressants, mais il faut quand même les installer, il faut quand même les financer. Et je veux dire, avec la fragilité des entreprises, des domaines viticoles en général, depuis ces quelques années de gel qui s'accumulent, il aurait fallu investir avant, c'est toujours facile de le dire après, mais plus on gèle et plus on fragilise les entreprises, et moins on a envie d'y aller parce que c'est des gros investissements.
Est-ce que vous avez dû prendre des mesures dans l'exploitation? Vous êtes combien sur le Clos Saint-Fiacre?
Alors chez nous, c'est une structure familiale, on est quatre à temps plein, on va dire. Mon épouse, deux salariés à temps plein et moi-même. Donc aujourd'hui, alors le problème, c'est que ben, même s'il n'y a pas de raisin dans les vignes, il y a quand même le travail des vignes à s'occuper. On n'y pense pas toujours, mais les vignes, ben, il faut s'en occuper. Elles poussent, même s'il n'y a pas de raisin. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mesure à ce niveau-là. Après, c'est plus des mesures au niveau, nous, en interne, avec par exemple nos partenaires, les banques, voilà, des choses comme ça, pour essayer de trouver des arrangements, pour des échelonnements de remboursement. Mais puis s'il y a quelqu'un à sacrifier en premier, ben, je dirais que ça va être le salaire de mon épouse. Mais ça, je ne l'ai pas dit encore, donc faut pas. Non, mais voilà, c'est surtout nous, on fait attention par rapport à nous. Puis après, au niveau du commerce du vin, ben, il y a malheureusement inévitablement une augmentation parce qu'on est obligé de répercuter immédiatement, d'essayer d'anticiper. Donc ça, c'est des choses que nous, on a fait. Faut rester cohérent. C'est des augmentations, on va dire, entre 5 et 8%. Ouais, on va dire entre 5 et 10%. Voilà. Mais il faut bien avoir à l'esprit que là, on prépare la récolte 2017. Le manque, il n'est pas tout de suite. Je veux dire, c'est dans un an et demi qu'on va être... voilà.
Hubert Piel, vous avez regardé les prévisions météo pour les jours qui viennent ?
Oui, on les a regardées. Là, pour l'instant, ils annoncent beau, ils annoncent très chaud. Donc, pour nous, c'est que du bonheur. Là, pour l'instant, voilà, ça va, ils annoncent peut-être un petit peu d'orage ce week-end. Donc, on a eu de la grêle la semaine dernière, donc ils n'ont pas fait de dégâts sur la vigne. Quand je voyais la force de l'orage, je me suis dit, ça va tout casser. Puis finalement, bon, là, ça se voit quasiment plus. Donc, c'est pas mal. Nous, c'est pas compliqué, on demande 30 mm par mois et température moyenne de 25 degrés. Vous voyez, c'est quand même simple, jusqu'au mois de septembre. C'est pas compliqué.
Alors, je rassure ici nos auditeurs attentifs. Les oiseaux exotiques que vous avez entendus en fond sonore, ce sont de faux oiseaux pour dissuader les étourneaux de venir chiper des cerises dans les vergers d'à côté. Il n'y a pas encore de cacatoès dans le Loiret, on n'en est pas encore là dans le réchauffement climatique. Olivier Renard, président de Météo France, le réchauffement climatique, c'est pas votre sujet, ça relève de la climatologie. On va peut-être pouvoir faire la distinction, mais est-ce qu'aujourd'hui on dispose de relevés précis des conditions météo dans la région depuis par exemple un siècle, pour savoir si cet épisode de gel répété est quelque chose d'exceptionnel, symptôme d'un dérèglement ou si l'interprétation est un peu trop hâtive?
Alors, des relevés, oui, on en a. Hein, d'ailleurs, ils montrent directement une augmentation. Hein, sur Bourges, par exemple, on a pris 1 degré sur 100 ans. Au niveau de la planète, même au niveau global, on a pris plus 0,85 degrés. Alors forcément, sur les terres, ça se réchauffe toujours un petit peu plus vite, puis les océans mettent beaucoup plus de temps à se réchauffer que le continent. Après, en fonction du scénario qui va être pris, puisque le réchauffement climatique est directement lié aux émissions de l'homme, de notre société. Donc en fonction, si forcément on arrive à limiter, alors on part de scénarios optimistes à 2,6 degrés de supplément, ou on arrive à des scénarios qui sont complètement pessimistes à 8,5 degrés. On n'arrive pas du tout sur les mêmes conséquences. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on aura plutôt des vagues de froid, alors pas forcément moins fréquentes, mais moins marquées. C'est-à-dire au lieu d'avoir moins 20 degrés, on aura peut-être moins 15, alors même si c'est des valeurs qu'on retrouve plus très souvent ces dernières années en France ou dans la région Centre-Val de Loire. Il y aura sûrement toujours des gelées tardives qui viendront gâcher le travail des agriculteurs et des viticulteurs.
Alors, vous parlez au futur, Olivier Renard, et c'est vrai que les prévisionnistes, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, parlent assez rarement au futur et on peut des scrupules à s'engager plus avant. Alors, restons à l'échelle de la région Centre-Val de Loire, puisque vous êtes, Olivier Renard, le président de Météo Centre et non pas de Météo France. Vous nous parlez d'évolution sur un siècle, là, et là on parle du passé. Qui, il y a un siècle, prenait dans la région, faisait des relevés? Est-ce que vous avez, comme dans le Tarn, un médecin consciencieux qui, chaque jour, à tous les jours à la même heure, notait sur un cahier le temps qu'il faisait, les températures, le niveau du vent, etc.?
Alors, Météo France est quand même un organisme qui est assez ancien et il se base aussi sur tout un tas de bénévoles qui sont présents sur l'ensemble du territoire. dans vraiment l'ancien temps, souvent c'était les élèves de l'école nationale des maîtres en fait qui faisaient les relevés, avec déjà des instruments qui étaient sous abri. Alors bien entendu, les instruments ont bien évolué depuis ce temps-là. Alors, pour donner un exemple, si j'ai bonne mémoire, je crois que la station de Châteauroux date de 1892, donc il y a des relevés à Châteauroux depuis 1892 jusqu'à encore à l'heure actuelle. Alors les instruments ont évolué, comme je le disais. Et finalement, pour être sûr qu'on se trompe pas, parce qu'en se disant entre un thermomètre à mercure qui date du 19e et un thermomètre digital du 21e siècle, il y a une grosse différence, bien entendu. Tout ça, en fait, est réétalonné par Météo France pour avoir des données fiables. On pourrait pas sinon se projeter dans l'avenir. Et surtout, le GIEC, au niveau international, ne pourrait pas travailler sur ces, alors pas prédictions, mais sur ces statistiques avec différents scénarios, comme je l'évoquais tout à l'heure.
En revanche, on n'a aucun relevé qui date des années 1850, en tout cas de l'époque où la France entre dans l'ère industrielle et qui pourrait plus ou moins faire la distinction entre les conséquences des activités anthropiques, des activités de l'homme sur le climat et l'évolution naturelle.
À ma connaissance, il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas eu connaissance de ces relevés, mais je pense qu'il doit y en avoir. C'est sûrement beaucoup plus fragmentaire qu'actuellement, parce que le réseau est quand même beaucoup plus dense maintenant. Donc avec des données qui sont moins denses et plus fragmentaires, c'est plus compliqué, je pense, d'utiliser ces données pour les modèles actuels.
Alors pour le gel, en tout cas, pour revenir quelques instants sur le gel, Hubert Piel, ce viticulteur, nous explique que les anciens, eux, étaient témoins d'épisodes de gel, mais beaucoup plus espacés. Là, on est quand même, on se retrouve avec des viticulteurs qui ne peuvent même pas compter sur leur stock de 2016, leur réserve de 2016, parce que leur réserve de 2016, leurs vendanges de 2016 ont aussi été affectées par le gel.
Oui, alors c'est des événements qui peuvent, c'est un petit peu, c'est pas la loi du chaos, mais pas loin. On sait que sur les mois d'avril, sur les mois de mai, si on regarde les statistiques, il y a toujours des épisodes de gelée. C'est pas tous les ans, heureusement pour eux. C'est vrai que là, sur ces dernières années, ils cumulent énormément. Déjà 2012, dans le Loiret, pour revenir un petit peu sur la localisation de Monsieur Piel, il y avait eu des températures de presque moins 15 degrés l'hiver. La Loire avait commencé à en bâcler. Et c'est vrai qu'au moins en hiver, la limite pour un pied de vigne, c'est moins 15 degrés. En dessous, le pied gèle et il meurt. Donc c'est vrai que sur 2012, ils avaient quand même eu de très très sérieuses inquiétudes. Alors je dis pas qu'actuellement ils en ont pas, et c'est bien légitime, mais 2012 avait été une année très très rude.
Alors on parle du gel parce qu'il a fortement sévi cette année, parce que les viticulteurs et agriculteurs en souffrent, mais on pourrait évoquer avec vous d'autres phénomènes climatiques plus ou moins violents qui se sont manifestés ces dernières semaines ou ces derniers mois dans la région. Qu'est-ce que c'est que cette mini-tornade qui a lieu à Buxeuil? Alors il paraît qu'on ne dit pas mini-tornade.
Non, on dit pas mini-tornade.
Ouais, c'est une tornade, quoi.
C'est une tornade. C'est une tornade ou c'est pas une tornade. Il y a une échelle internationale de EF0, EF5 pour classer la violence. Bon, c'est un terme qui est utilisé parce que c'est vrai que finalement c'est très très localisé, mais c'est pas parce que c'est localisé que c'est pas un phénomène de type tornade. Buxeuil, nous aussi on a cherché sur une carte au début, même si on est du coin, parce qu'on connaît pas tous les villages malheureusement, même si on essaye de faire quelque chose de très local.
Et vous êtes allé mener l'enquête sur place.
On y a été le lendemain, le 1er mai. On a profité de pas travailler pour en tant que bénévole, prendre la casquette de bénévole de l'association et partir avec Ludovic Pichon sur la route, et puis essayer de trouver les indices. Alors on s'est garé à côté du stade de foot, on a commencé à regarder, bon là il n'y a rien, là il n'y a rien, et puis on a commencé à se dire bon on va mettre les pieds dans les champs, hein, il a plu mais c'est pas grave, et puis on a fait une enquête de terrain pendant 3 heures, on a été discuté avec les habitants qui ont bien voulu nous ouvrir, enfin pas nous ouvrir leurs portes, mais au tout du moins venir avec nous dehors, il faisait pas trop mauvais, donc c'était assez sympathique. Et c'est vrai que là du coup on a pu se baser sur des dégâts qu'on a vus sur tout un tas d'arbres dont vous parliez au début de l'émission, cette cabane de jardin qui a été soulevée, qui a été désancré du sol.
Et plié, enfin je veux dire, ratatiné, quoi.
Et là où véritablement on a pu établir que c'était une tornade, c'est quand cette personne nous a raconté que sa cabane de jardin était dans les airs et tournait sur elle-même, voilà, et puis s'éloignait de plus en plus.
Et ça vous paraît exceptionnel ou pas?
Non, au final, enfin... Exceptionnel, c'est pas facile. On sait qu'il y a des tornades. Il y a l'association Kéronos, par exemple, qui fait un travail magnifique au niveau national sur le recensement. Alors, on essaie de leur donner un coup de main. Des fois, on arrive aussi à faire des enquêtes de notre propre côté. Il y a deux pans. Il y a ces phénomènes qui sont là, Et il y a aussi le fait que on a tous un smartphone, on a tous une connexion internet, on peut filmer, il y a les réseaux sociaux, l'information va beaucoup plus vite qu'avant, donc savoir s'il y en a de plus en plus ou savoir si c'est finalement plus reporté, c'est très compliqué.
Moi je vous soumets quand même un témoignage de terrain, c'est celui d'Yvon qui fait de la radio depuis 25 ans, à peu près, un peu plus, et qui me dit qu'avant il n'y avait pas autant de vent. Là à chaque fois qu'on va quelque part, il faut se mettre à l'abri du vent qui est le pire ennemi du micro, et avant il n'y avait pas tout ce vent.
C'est vrai qu'on est depuis quelques années, il y a beaucoup de vent, il y a plus de vent. Il faudrait que je regarde les chiffres, je ne les ai pas véritablement en tête, mais on a quand même l'impression au ressenti. J'en discute avec des agriculteurs quand on se déplace, et c'est vrai que le vent dessèche et il a l'air plus présent qu'avant.
Olivier Renard, depuis combien de temps vous n'avez pas eu de neige à Noël ici en région centre, à votre avis?
Je dirais 2013. Tout du moins pour Châteauroux. Après, sur le reste de la région, il me semble qu'Orléans, il y en a un petit peu avant. Alors après, en neige, il y a de la neige de pollution aussi, de plus en plus. Ouais. Cette année, on en a eu pas mal au mois de janvier, parce que les conditions étaient réunies, mais je dirais 2013.
Bon, on pourrait citer, la liste est encore longue et souvent plus dramatique. Hein. Je vous parle de la neige à Noël, il y a eu ces inondations l'année dernière, le Loiret a été très touché, le Loing, le cours d'eau du Loing a dépassé par endroits la barre des 3,43 m.
Oui.
Tout ça, vous avez toutes ces données entre les mains. Est-ce que vous en tirez des conclusions ?
En tirer des conclusions, c'est pas simple, c'est un épisode exceptionnel. C'est vrai qu'on est sur des crues qui ont dépassé celles de 1910, donc pour l'Est du Loiret et pour la Sologne aussi qui a été touchée dans le Loiret-Cher, même s'ils n'ont pas été placés en vigilance rouge du coup parce que c'était un petit peu moins marqué. Loine, le Loing, Montargis, 4 milliards de dégâts estimés au mois d'août dernier sur ces inondations au niveau perte agricole. On peut que espérer que ça ne se renouvelle pas trop souvent, mais c'est vrai qu'on était sur une situation assez particulière sur le mois de mai 2016, une première semaine qui était plutôt typique d'un mois de mai habituel dans la région, et ensuite une succession d'orages qui ont déjà amené pas mal de précipitations sur la région centre, et puis cette situation avec une perturbation, un défilé de perturbations très proche, très très peu de pauses, qui sont arrivées sur des sols qui étaient déjà saturés, et on est arrivé avec des cumuls de pluie parfois de 100 mm sur une journée, qui ont provoqué une situation complètement catastrophique. L'autoroute A10 qui a été coupée pendant une semaine quasiment, etc., etc. Logiquement, ce que nous dit le réchauffement climatique, c'est que les précipitations vont être plus hétérogènes. Plus de précipitations l'hiver, donc plus de risques d'inondation, moins de précipitations l'été.
François Bonneau, la région Centre-Val-de-Loire que vous présidez a débloqué l'année dernière 1 million d'euros pour venir en aide aux viticulteurs concernés par le gel. Est-ce que cette enveloppe sera renouvelée en 2017 ?
2016, un gel terrible, assez spécifique à la région Centre-Val-de-Loire, avec une situation de vignes très menacée. Un fonds a été mis en œuvre de 2 millions. De 2 millions avec un abondement de l'Europe et un abondement de la région Centre-Val-de-Loire pour permettre aux viticulteurs de voir s'il y a des solutions qui permettent de protéger les vignes quand le froid vient. Et le froid vient de plus en plus fréquemment. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, mais c'est surtout des aléas climatiques de plus en plus nombreux. Et donc, une étude complète a été faite à l'échelle de la région pour comprendre s'il y avait des systèmes de protection. Nous avons financé cette étude. Et au-delà, nous avons dit aux viticulteurs, engagez-vous, mettez en place des systèmes qui sont des systèmes de protection lorsqu'ils sont adaptés.
De quel ordre, alors, ces systèmes de protection? Il y en a plusieurs, ils ne sont pas tous adaptés, justement, aux conditions de terrain.
Ça dépend des sols. Il y a des sols qui sont très imperméables. Sur ces sols-là, il faut essentiellement envisager des systèmes d'éoliennes qui vont brasser l'air, qui vont rabattre l'air qui est à 10-15 mètres de hauteur vers le sol. Quand il fait une gelée du matin au printemps, le sol est beaucoup plus froid qu'à 10 mètres. Et avec une éolienne, on arrive à couvrir entre 4 et 5 hectares de vignes. C'est important.
C'est ce qu'on appelle les tours anti-gel. antigel.
C'est ce qu'on appelle des tours antigel. Et nous avons aujourd'hui des tours antigel également qui sont des tours mobiles qui permettent d'être rangées en dehors de la période pour que dans les endroits sensibles sur le plan du paysage, les choses restent tout à fait agréables. Et puis, sur des terrains qui sont des terrains qui le permettent, des terrains absorbants, une autre technique existe qui est celle de l'aspersion. L'aspersion, eh bien, au moment où le gel arrive, un peu avant le passage à 0 degré, vous déclenchez une aspersion, vous maintenez l'aspersion, la température descend à moins 1, à ce moment-là, il y a une espèce de gangue de glace qui se crée autour du bourgeon. Le bourgeon est protégé par la glace qui s'est formée autour de lui. Et on continue à arroser au petit matin, quand le soleil vient, on continue à arroser, le bloc de glace fond, et à ce moment-là, tout doucement, on peut arrêter l'arrosage. C'est un système qui, lui, non soutenu par l'Europe, parce qu'il y a l'utilisation de quelque chose qui est assimilé très abusivement à de l'irrigation, ça n'est pas de l'irrigation, ça ne se fait pas dans des périodes où il y a des manques d'eau, mais c'est comme ça. Ce sont les deux grands systèmes. Cette année, en effet, on a eu à nouveau 2017, donc vous voyez la fréquence qui se répète. Eh bien, dans cette année-ci, nous avons à nouveau réuni les agriculteurs, les viticulteurs, pour parler avec eux. Je suis allé beaucoup sur le terrain pour les rencontrer et j'ai expliqué que nous voulions accentuer la mise en œuvre de ces systèmes et j'ai proposé que 1 300 000 fonds européens et fonds régionaux puissent permettre très rapidement, dans un an, deux ans maximum, de faire 500 hectares protégés à nouveau.
500 hectares, sachant qu'une tour antigel en couvre 4, nous disiez-vous, ça fait beaucoup de tours antigel qui vont apparaître sur le territoire de la région centre.
Si elles sont mobiles, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'altération pour le paysage. Vous savez, on a aidé à l'installation de tours antigel. Et dans pas mal de territoires, les viticulteurs ont réuni les habitants en leur disant, écoutez, pendant 3 nuits, 4 nuits, peut-être, si nécessaire, vous entendrez tourner nos éoliennes. Sachez que si on ne le faisait pas, c'est la production qui serait détruite, etc. On n'a pas eu de contestation. On avait, les agriculteurs disaient par le passé, il faut toujours avoir une récolte à la banque, une récolte en cave, et comme ça, si une mauvaise année vient, on passe et on retrouve la bonne situation l'année suivante. On a, sur certains territoires de notre région, à la fois ces deux années consécutives qui frappent, mais sur certains territoires, c'est 5 ans. Sur 5 ans, vous vous apercevez qu'il n'y a pas eu plus de 40% de la production attendue. Ça peut être tout à fait menaçant pour l'existence même du vignoble et des exploitations, et c'est intolérable pour les viticulteurs.
François Bonneau, est-ce que les aléas climatiques, est-ce que la météo va s'immiscer de plus en plus dans les calculs et les arbitrages budgétaires de la région? Ou est-ce que vous allez suivre la tendance générale, et qui est celle notamment de l'État, de laisser les assurances se charger de tout ça, les assurances privées?
S'immiscer complètement dans les politiques de la région, oui, et en prévention, nous voulons prendre toute notre place dans l'accord de Paris, et nous avons des budgets importants pour aider les collectivités à franchir un certain nombre de caps en matière de consommation énergétique, d'isolation des bâtiments, etc. C'est très important.
Ça c'est l'écologie, mais sur les aléas climatiques.
Ça, c'est la prévention des aléas climatiques. Parce que si on ne va pas trop vite vers le réchauffement, si on limite le réchauffement, si possible, à 1,5 degré, on aura moins d'aléas climatiques. Ensuite, quand ils sont là, et ils sont là, il faut en effet agir. Et nous avons choisi d'agir, non pas en disant, assurez-vous, il faut financiariser les aléas, mais agir pour faire en sorte que nous vivions avec ces aléas en atténuant leur effet sur la production. On ne peut pas tout financiariser, à la fois mise en cause de notre environnement et les conséquences économiques de ces agressions. Il faut prévenir, il faut empêcher, il faut former les femmes et les hommes à faire de ces aléas climatiques des éléments de leur vie économique, mais absolument pas des éléments purement financiers pour faire fonctionner un business qui rapidement s'épuiserait.
François Bonneau, président PS de la région Centre-Val de Loire, sur la route de la météo qui déraille, point d'interrogation. Olivier Renard, président de Météo Centre, est notre invité ici à Châteauroux. Les agriculteurs ne sont pas les seuls professionnels à être dépendants de la météo. Nombreuses sont les professions que vos prévisions intéressent, j'imagine, Olivier Renard.
Alors oui, on travaille de plus en plus avec les agriculteurs en ce moment dans le déploiement de stations météo semi-professionnelles qui leur servent finalement d'outils d'aide à la décision.
D'aide à la décision, c'est-à-dire ils savent s'ils doivent protéger leur culture.
Éventuellement protéger, alors ça ne nous est pas encore arrivé d'en arriver à ce stade-là avec un partenaire. Par contre, pour l'irrigation, savoir l'évapotranspiration des végétaux, savoir s'il y a besoin véritablement d'irriguer ou pas, la température du sol avec la somme des températures pour savoir pour les semis où est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de favorable ou de pas favorable, ou même si on installe la station aux normes agronomiques, savoir si l'agriculteur peut traiter parce que s'il traite avec des rafales de vent à 30 km/h, le traitement va pas être très très efficace. Voilà, on est vraiment pour le moment sur ce type d'activité. Ensuite, on a d'autres partenaires comme je pense l'association Météo Bretagne qui lui fait des prévisions pour le Stade Rennais, etc. Ce sont d'autres activités qui sont fortement obligatoirement impactées par la météo.
De manière plus évidente, les entreprises de transport, parce que quand il y a des intempéries sur le réseau routier, forcément ça change la donne, les services d'urgence, les travaux publics, le secteur de l'énergie pour anticiper par exemple la consommation des foyers. Tous ceux qui ont des panneaux voltaïques, ça les intéresse de savoir si des nuages bas débarquent.
Vont venir nous embêter ou pas.
Vont venir les embêter ou pas. Le secteur du tourisme, bien sûr. Et avec eux, vous travaillez?
Alors, on essaye de tisser des liens. Alors, c'est vrai que si on regarde sur notre site internet, les pages les plus regardées, ce sont les pages de vigilance, donc sur les phénomènes qui risquent de se dérouler dans les prochaines heures sur notre territoire. Ou après, le zoo de Beauval, le PAL, le château de Chambord, où on voit que les gens sont très, très demandés à la dernière minute, avant de finaliser leur déplacement, je dirais, regarde s'il va faire beau pour la journée.
Et la grande distribution, me disiez-vous?
Alors la grande distribution, on sait qu'ils utilisent les données météo pour prévoir leur campagne de publicité, pour sortir les bons produits, plus de 25, plus de 30 degrés, ils sortent les glaces, les saucisses pour les barbecues, etc.
La
gestion du stock, et même les campagnes de publicité. Parce que l'année dernière, par exemple, il y a certaines entreprises qui avaient sorti des publicités, on a commencé à sortir des publicités début mai parce qu'il faisait beau sur des glaces, etc., pour toucher un maximum de personnes. Et puis quand on voit finalement la fin mai 2016 avec un des plus bas taux d'ensoleillement jamais relevé, c'est une campagne de publicité qui est complètement passée à côté.
En Europe, on estime que la météo influence directement 25 à 30% du produit intérieur brut. Mmh. Prévoir le temps, préoccupation ancienne. Et d'ailleurs, celui qui a lancé la première station météo en France, il y avait intérêt. C'était Napoléon III.
C'est ça.
C'était en 1855. Et l'année d'avant, une violente tempête complètement prévisible, mais complètement imprévue, avait englouti une partie de la flotte française en mer Noire pendant la guerre de Crimée. Voilà, donc forcément, il y avait un intérêt à la fois humain, économique, logistique, militaire. Politique, militaire. Est-ce que vous travaillez avec les assureurs, Olivier Renard?
Alors, on est en train d'essayer de tisser des liens là aussi, pour essayer de leur fournir des informations. C'est vrai que le maillage de Météo France serait très bon. Notre travail, c'est d'essayer avec nos moyens, et nos bénévoles, de monter un réseau, de combler les trous. Une tornade à Buxeuil, la station de Château-Rodéol ne l'a pas vue. C'est totalement impossible. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien avoir 10 km/h de vent à Château-Rodéol au moment où il y avait plus de 100 km/h à Buxeuil. Et c'est vrai que du coup, pour les assureurs, alors après je ne sais pas exactement comment ils vont fonctionner, mais s'ils veulent nos données, il n'y a aucun souci, on leur fournira.
Les inondations de l'année dernière, est-ce que vous les avez prévues? Est-ce que vous avez pu permettre à certains de mettre à l'abri ce qui devait l'être?
Je ne sais pas si on peut avoir cette prétention-là, tout du moins, on savait qu'on allait avoir une situation relativement exceptionnelle sur la fin mai. On l'avait anticipé quelques jours avant. De là à véritablement arriver sur l'intensité à laquelle finalement la situation a été, on n'y était pas tout à fait quand même. On avait une marge d'erreur, je dirais, d'une dizaine de pourcents.
Voilà la station météo en question.
Waouh.
Donc ici on a le pluviomètre sur la partie haute, le bloc noir. Tout en dessous, on a le bloc où est incorporé du coup le thermomètre et l'hygromètre, plus le boîtier avec l'antenne qui permet de transmettre les données directement sur l'ordinateur. Et sur le hangar là-bas, on a installé un départ d'anémomètre. Donc du coup, la prise de vent est faite à 10 mètres de haut.
Donc pour décrire la station météo déjà qu'on a devant nous, en fait, c'est un mât,
voilà,
avec comme une sorte de seau renversé, un seau noir à son sommet. Et comme des petits casques de chantier qui s'accumulent blancs dessous.
C'est un petit peu ça. Donc celle-là, elle est ventilée. C'est-à-dire qu'on a un ventilateur qui permet de brasser l'air en continu, jour et nuit. Et on obtient du coup des données de température qui sont vraiment, vraiment lisses.
Donc c'est ça qui sert à mesurer la température. Oui. Mais c'est en plein soleil. Moi, je croyais qu'on prenait toujours, on la mesurait à l'ombre, la température.
Alors voilà, on la mesure. Le bloc ici, c'est un abri ventilé. Donc la sonde de température est à l'intérieur et le bocal blanc qu'on voit dépasser en dessous, c'est l'abri qui permet de mesurer la température.
Donc pour résumer, votre appareil mesure la température, oui. Le vent,
oui.
La pluviométrie,
oui. L'hygrométrie,
qui est
le pourcentage d'humidité dans l'air.
Et quoi d'autre ?
Et c'est tout.
Et c'est déjà pas mal.
Et c'est déjà pas mal.
Je peux regarder à l'intérieur, Ludovic Pichon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir ?
On ne voit pas bien grand-chose.
Vous avez vu, il y a une petite araignée qui s'est logée sur le panneau solaire. Bon, mais alors quand est-ce que vous avez investi dans une station météo ? Et d'ailleurs, ça coûte combien ce genre de choses ?
Alors, la station en elle-même coûte aux alentours de 650 euros. Le départ d'anémomètre, puisque c'est le boîtier blanc que vous voyez sur le bord du hangar, lui, on est dans les 150-180 euros. Donc là, on est aux alentours de 800 euros.
De votre poche ?
De ma poche. Voilà. Et l'idée d'installer la station, mon père en avait acheté une il y a déjà un petit moment, qui n'avait pas très bien marché, et c'était l'opportunité d'acquérir vraiment une station semi-professionnelle, qui va durer dans le temps et où on récupère des données qui sont quand même relativement fiables.
Parce que là, les données qui sont enregistrées par votre appareil, où est-ce que vous les retrouvez ?
Alors, on les retrouve sur l'ordinateur à l'intérieur de la maison, et derrière, elles sont enregistrées et retransmises sur le site de l'association Météo Centre.
On peut aller voir votre ordinateur ?
On peut aller voir.
Et sur le toit, là ?
Donc, l'ancien modèle. L'ancien modèle de la station, c'est l'anémomètre qu'on a laissé là, qui nous donne du coup la direction du vent visuellement.
Il est beaucoup plus petit.
Beaucoup plus petit.
Ça va, votre père n'est pas trop jaloux ? L'a bien pris ?
Non, ça va. Alors, la fameuse console de la station météo, qui est là. Donc là, on a tous les paramètres de la station en temps réel. On a 24,6 degrés, 58% d'humidité, 14 km/h de vent d'est.
Et quel temps fera-t-il demain ?
Ça, par contre, la station ne le permet pas. Là, il faut consulter Météo Centre.
En fait, votre station météo, Ludovic Pichon, sert à alimenter un réseau météo plus vaste et à préciser, à affiner des prévisions qui ont été faites.
C'est ça, c'est le but. Et c'est surtout de pouvoir faire aussi des comparaisons par rapport aux autres stations qui sont implantées et vraiment de pouvoir comparer entre par exemple celle d'Olivier Renard qui est à Saint-Maur à 15 km à Val d'Oiseau et celle-ci, où on observe déjà quelques petites différences.
Alors Ludovic Pichon, parlez-nous de votre passion météo, passion nuage.
Passion nuage. Bon, c'est tout jeune la passion nuage. C'est vrai qu'on fait pas mal de chasse à l'orage avec l'association Météo. Ça permet aussi de connaître un petit peu mieux le temps, l'évolution du temps et d'affiner aussi un petit peu la passion.
La chasse à l'orage ?
La chasse à l'orage.
Mais c'est quoi ?
Donc on photographie les éclairs.
Et vous, voilà. Quand vous étiez petit, vous faisiez des photos d'éclairs ?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une passion qui est venue il y a 2 ans à peu près.
Qu'est-ce qui vous intéresse tant ?
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est... D'abord, je suis dans le milieu agricole, donc ça permet aussi... C'est un sujet de discussion. Et bon, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé.
Comment ça, c'est un sujet de discussion ? Tous les matins ?
Tous les matins avec les agriculteurs. C'est vrai que c'est tous les jours. Hein. Les agriculteurs sont très dépendants de la météo et on en discute régulièrement.
« Et vous, Olivier Renard, vous avez chassé l'orage depuis votre plus jeune âge?
J'ai bien peur que ce soit ma faute pour Ludovic Pichon. Je crois que c'est moi qui lui ai transmis le virus. Je me rappelle en fait, tout petit, je devais être en primaire ou au collège, écouter l'orage, véritablement le chasser, c'est depuis 2009. Régulièrement, quand ma femme a l'aimabilité et la gentillesse de me laisser partir, après il y a eu un coup de foudre à un moment, donc elle est quand même quelque part responsable.
un vrai coup de foudre.
Et partant de là, c'est vrai que depuis 2009, je pars des fois une journée complète ou une nuit complète et je rentre au petit matin, des petits yeux et un appareil photo le plus garni possible.
Donc en tout cas, vous êtes plusieurs bénévoles comme Ludovic Pichon à Météo Centre à scruter le ciel et à prendre scrupuleusement les relevés de vos appareils. Vous êtes combien en fait?
En fait, on est 6 à gérer. Dans l'idéal, on voudrait avoir un petit peu une personne référente par département, mais sur 9 départements, c'est compliqué. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, on s'en sort bien. On a essayé d'organiser différemment les choses ces derniers mois avec véritablement une personne qui gère les réseaux sociaux, une personne qui va gérer plutôt les implantations de stations, etc., etc. Après, on appelle toutes les bonnes volontés. Si ça les intéresse, il n'y a pas de souci, il faut nous contacter et on verra si on peut trouver quelque chose pour eux.
Météo France aussi a un bon réseau de bénévoles, mais dans le même temps, ferme des stations. Il en reste ici, en région centre, il en reste combien?
Alors, les stations météo automatisées sont toutes restées. Ça, c'est pas le souci. Ils maintiennent ce service-là et c'est très bien. Après, pour le moment, il ne reste... Alors, Château-Rodéole a fermé l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, et il reste actuellement Tour et Bourges.
C'est à partir d'une observation la plus fine possible et le plus de bénévoles possible qu'on fait de bonnes prévisions. Aujourd'hui, on est capable de prévoir à combien de jours le plus finement possible.
Alors le plus finement possible, c'est compliqué. Généralement, à 24 heures, on est quand même très très bon. Et après, on va rajouter au minimum une dizaine de pourcents d'incertitude par journée qui passe. Après, pour certaines choses, des fois des canicules, des coups de chaleur, on va le voir une semaine à l'avance avec l'intensité qui est déjà très très bien calée. Par contre, pour d'autres phénomènes comme les orages, ça reste assez compliqué. Pour faire un orage, véritablement, il faut 12 facteurs différents combinés pile poil au même endroit en même temps. Et c'est vrai qu'il existe encore de nombreuses incertitudes sur ce genre de choses. Sur la neige aussi, le verglas, c'est parfois très compliqué.
Au niveau national et européen, les outils sont beaucoup perfectionnés. On a maintenant des radars qui balayent l'atmosphère en permanence sur des dizaines de kilomètres à la ronde. On a des gros satellites géostationnaires, un super calculateur.
À Météo France.
Ouais. À Météo France. Combien d'opérations par seconde? C'est de l'ordre de 8 milliards de millions d'opérations par seconde. En tout cas, les moyens sont mis pour que les prévisions, parce que, encore une fois, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui.
Bah, comme le disait Ludovic, c'est aussi, on connaît pas quelqu'un. Un des premiers sujets le matin dans une discussion, ça va être la météo. T'as vu, il fait beau, il peut lui faire un temps de chien, voilà. On a ce côté social un petit peu de la météo aussi, de ce côté-là.
Bon, pour autant, Olivier Renard, pour conclure, les experts du climat restent quand même incapables de décrypter les ressorts fondamentaux de la météorologie et à la fin, c'est toujours la faute au chaos atmosphérique. Voilà, quel que soit l'événement climatique, c'est toujours ça.
C'est totalement vrai.
L'explication finale, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Il y a encore des lois physiques qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être pas encore très bien mises en équation. Peut-être qu'on manque encore un petit peu de puissance de calcul. Il y a de la probabilistique et c'est vrai qu'il y a des fois, on se trompe encore complètement.
La probabilistique?
Ouais. En gros, c'est on fait tourner par exemple 100 modèles différents et il y en a 55 qui vont dire la même chose, 20% qui va dire autre chose et le reste qui va dire encore autre chose et c'est pas forcément les 55% qui ont raison.
Bon, Olivier Renard, tout ce qui nous intéresse de toute façon, c'est est-ce qu'il va faire beau cet été?
Ah, cet été, pour le mois de juin, c'est plutôt un temps de saison. Le mois de juillet, je suis désolé pour les juilletistes, mais tout du moins sur la région centre, c'est peut-être pas le plus beau mois de l'été. Après, août s'annonce mieux, avec une fin août éventuellement orageuse. Mais après, tout ça va prendre avec des pincettes, parce que les prévisions saisonnières, c'est là aussi très expérimental.
Bon, laissons-nous porter par le temps qui fait. Merci en tout cas beaucoup, Olivier
Merci
Renard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Météo Centre. Nous mettons en ligne quelques photos et liens utiles à la page de Sur la route sur le site de France Culture, page à laquelle vous pouvez commenter et télécharger cette émission, ainsi que nos épisodes précédents. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Berry pour son accueil. À la technique, c'était Olivier Audot. La semaine prochaine, nous serons sur la route en terre bien connue, la France racontée par les écrivains, en direct et en public depuis les étonnants voyageurs à Saint-Malo. Venez nombreux. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.